15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Tous les jours de 15h à 16h, nous répondons à vos interrogations en matière de santé, vos petits, vos gros bobos. On parle de tout, Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre. Et surtout, on parle de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à une maladie respiratoire très fréquente, l'asthme. Environ 4 millions de personnes sont concernées en France et on a décidé de parler des bénéfices du sport chez ces patients avec notre invité, le professeur Camille Taillé, pneumologue. Vous verrez qu'en suivant quelques recommandations simples, les asthmatiques peuvent même être grandement améliorés par la pratique d'une activité physique régulière. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous dire comment prendre soin de notre vésicule biliaire et que faire si on développe des cailloux dans ce petit organe, cette petite poche, on va voir tout ça. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler d'un truc que les femmes particulièrement détestent, on va tout vous dire sur la cellulite. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de ses pensées, de ses fantasmes un peu bizarres parfois pendant les rapports qui peuvent concerner d'autres personnes que celles qui sont dans notre lit. Vous allez voir, apparemment, c'est assez classique.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Clara, 25 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'avais une petite question, j'ai 25 ans et depuis toujours, j'ai des règles très abondantes. Je voulais savoir si c'était normal et s'il y avait quelque chose à faire pour qu'elles le soient moins. Merci pour vos réponses, bonne journée.
Bon alors Jimmy, avoir des règles très abondantes, dit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais comment on sait en fait si on a un flux moyen ou plus
Alors les règles abondantes, on appelle ça les ménorragies. Je sais que vous adorez ce genre de termes
médicaux. Vous aimez bien sortir des petits termes savants comme
exactement,
ça, les ménorragies.
Exactement, les ménorragies. Et pour vous donner une petite idée, on considère que des règles normales, on va dire normales entre guillemets en termes de fréquence, c'est des règles qui surviennent toutes les 28 jours, qui dure entre 3 et 7 jours, et dont la perte de sang est estimée à 40 millilitres en moyenne.
Vous avez mesuré.
Et oui, donc voilà, c'est un repère. D'accord. Et on parle de ménorragie lorsque les règles sont trop abondantes ou lorsqu'elles durent plus de 7 jours.
D'accord, alors effectivement, il va falloir un tout petit peu nous détailler tout ça, ou expliquer peut-être différemment, parce que 40 millilitres de sang, ça ne veut pas dire grand-chose pour les femmes. C'est difficile quand même d'évaluer la quantité de sang qu'on perd sur une journée.
Oui, d'autant plus que les études ont montré que lorsqu'on interroge les femmes, celles qui pensent avoir des règles abondantes n'en ont pas.
Ah oui,
et
d'accord.
Celles qui pensent avoir des règles normales ont finalement des règles abondantes. Donc
d'accord.
C'est très compliqué d'évaluer. En revanche, on peut donner quelques repères. Si évidemment votre serviette hygiénique ou votre tampon doit être changé plusieurs fois par heure, c'est qu'il y a un problème. Si vous devez utiliser les deux protections combinées, c'est qu'elles sont peut-être trop abondantes. Si vous avez aussi des douleurs abdominales intenses associées aux règles, c'est qu'il y a peut-être quelque chose en dessous. Et évidemment, si vous devez changer les vêtements, les draps et qu'ils sont fréquemment tachés de sang, encore une fois, c'est que c'est trop abondant.
Bon, et est-ce que c'est grave, docteur, d'avoir des ménorragies alors d'avoir des règles abondantes ?
Pas forcément, mais c'est vrai que la société a fait croire aux femmes qu'il était normal de souffrir pendant les règles ou d'avoir des règles très abondantes.
Et c'est pas le cas.
Et c'est absolument
pas
le cas.
Mal, ouais.
C'est pas normal. Il faut ne pas hésiter à consulter, car parfois ça peut révéler certaines pathologies dont on va parler. Bien souvent, on ne retrouve pas de cause. Mais si c'est très douloureux ou au contraire que ça a un impact sur votre santé avec des carences en fer, il est important de consulter pour trouver des solutions.
Alors ça peut être causé par quoi ? Parce que la jeune fille qui posait la question disait « moi j'ai des règles abondantes depuis toujours ». Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une cause identifiée ? Pourquoi il y en a certaines oui, certaines non ?
Lorsqu'elles sont identifiées de façon récurrente, ça a toujours été comme ça, j'ai toujours eu mal, c'est normal. Ça peut être révélateur de fibromes ou d'une endométriose sous-jacente, donc il faut au moins faire une échographie pelvienne. Parfois, on a un déséquilibre hormonal inexpliqué, que tout d'un coup, on a des cycles un peu anarchiques. On sait que certains stérilets, les moyens de contraception, notamment
au cuivre,
le stérilet
hein.
au cuivre, peuvent perturber énormément le cycle. Et puis, certaines infections génitales, mais là, le diagnostic est un peu plus facile.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Anissa, 36 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Alors moi depuis toute petite je bois du lait cru le matin au petit déjeuner ou pendant la journée. Je sais que c'est pas très bon pour la santé mais j'ai pas eu de problème particulier jusqu'alors. Est-ce que cela a des bienfaits ? Est-ce que c'est vraiment aussi mauvais qu'on le dit ? Merci de vos conseils.
Alors, les produits à base de lait cru, bon, le lait, les fromages, c'est excellent. Moi, je trouve en fromage, d'ailleurs, j'adore ça pendant mes grossesses, ça m'a beaucoup manqué, parce qu'on va en parler. Je crois que c'est déconseillé à cette période-là. Pourquoi c'est déconseillé, justement, sur les gens qui sont un peu plus fragiles? C'est quoi le lait cru?
Alors, le lait cru, ça fait référence au lait de vache, de chèvre, de brebis ou un autre animal qui n'a pas été chauffé à plus de 40 degrés ou qui n'a pas été soumis à un traitement ayant le même effet. Le lait cru, c'est donc l'inverse du lait pasteurisé.
Et
que
oui,
la majorité des gens
en brique, en bouteille,
consomment aujourd'hui.
Dans les supermarchés, c'est ça qu'on achète le plus. Hein.
Mais le lait cru, on l'a bu durant des millénaires sans aucun problème. Et aujourd'hui, il peut être considéré comme dangereux, notamment à cause du risque infectieux et du développement de certaines bactéries.
Alors, le lait cru ou les produits à base de lait sont donc des produits, vous venez de le dire, qui contiennent naturellement des bactéries, c'est
oui,
ça?
Oui, des bactéries qui ne sont pas forcément mauvaises. En revanche, on sait que ça a un impact sur la conservation du lait, qui forcément est plus fragile et se conserve moins bien, et donc forcément au frais et moins longtemps, que le lait pasteurisé. Donc, il faut avoir des précautions particulières. Mais on sait qu'en règle générale, ça pourrait favoriser le microbiote, puisque c'est source de bonnes bactéries et donc intéressant pour la flore intestinale.
Alors, si on n'est pas enceinte, un petit enfant, qu'on n'a pas de problème particulier, en consommer donc pose aucun problème. C'est plutôt bon, vous dites, pour le microbiote,
oui.
Par exemple, ça peut l'enrichir.
Exactement. Plusieurs études montrent que le fait de consommer du lait cru est plutôt bénéfique pour la santé. Ça pourrait être intéressant chez les enfants qui ont un terrain atopique avec de l'eczéma, de l'asthme. Donc, ça pourrait faire qu'ils font un peu moins d'allergies. Et on sait que c'est riche, notamment en vitamine B12, plus que le lait pasteurisé. Et ça contient un peu plus de lait de vitamine E, pardon. Et donc, c'est nutritionnellement parlant, c'est un peu plus intéressant. Donc attention aux règles de conservation néanmoins.
Parfait. Donc conservation, c'est qu'on le garde évidemment toujours au frais. Et donc jamais chez les femmes enceintes ni les enfants de moins de 5 ans. Merci beaucoup Jimmy. Si vous aussi, comme Anissa qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de notre vésicule biliaire. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le professeur Camille Taillé, pneumologue, qui va nous expliquer pourquoi faire du sport quand on est asthmatique, c'est bon. Ça peut même améliorer la maladie. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le professeur Camille Taillé, qui est pneumologue avec qui nous allons parler asthme et sport, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez de la vésicule biliaire et plus particulièrement des calculs de la vésicule. Mais d'abord, bon, je dois avouer, la vésicule, moi je ne sais même pas trop à quoi ça sert. Ça sert à quoi la vésicule biliaire?
Eh oui, c'est une petite poche d'une dizaine de centimètres qui est située sous le foie. Sa forme rappelle celle d'une poire. La vésicule est reliée au foie et au pancréas et au duodénum à travers des petits canaux. Et le rôle de la vésicule, c'est de stocker la bile qui est produite par le foie. Cette bile, si un jour vous avez la chance de la goûter, plutôt amère. C'est un liquide qui est jaune verdâtre. Et il contient entre autres des sels comme les sels biliaires, la bilirubine, c'est un pigment qui résulte...
Ah, sels comme le sel, oui, d'accord.
Oui, des sels
biliaires. Parce que là, je ne voyais pas le lien entre vous avez envie de la goûter et les sels. Hein, mais bon, d'accord.
Et de la bilirubine qui est un pigment qui résulte de la dégradation de l'hémoglobine. La vésicule biliaire sert à la digestion. Lorsque vous prenez un repas un peu trop gras, un peu trop riche, la vésicule se contracte pour libérer de la bile et permettre de digérer l'aliment. Donc, c'est un rôle important. Et ça permet notamment à l'élimination de certains médicaments. Et ça aide le foie à se débarrasser de certaines toxines.
Et donc le problème, c'est que cette bile, elle peut se cristalliser, former des petits cailloux et donc obstruer son passage. Et c'est ça qui donne des douleurs, un peu comme quand on a des calculs rénaux.
Exactement.
Ça, je sais, j'ai déjà eu, c'est horrible.
Et oui, c'est un peu la même chose. Et la fréquence de ce qu'on appelle les calculs au niveau de la vésicule sont très fréquents. On estime à 20% des gens qui en auront.
C'est ce qu'on appelle la lithiase.
La lithiase vésiculaire. Et cette proportion augmente à 60% après 80 ans. Vous avez des douleurs à ce moment-là au niveau au-dessus du nombril, au niveau du creux de l'estomac,
oui,
et sous les côtes à droite. Ça traduit la mise en tension des voies biliaires par ce calcul qui empêche la bile de s'écouler. La douleur peut être irradiante au niveau de l'épaule droite.
Ah oui.
Elle dure quelques minutes à quelques heures. Lorsqu'elle ne s'accompagne pas de fièvre, on appelle ça la colique hépatique. Ça veut dire que vous avez un calcul et puis qu'il est parti. Mmh. Et lorsqu'elle s'accompagne de température, on appelle ça la cholécystite, signe d'une infection de la vésicule et de la bile qu'il faut traiter différemment.
Bah dis donc, on apprend plein de choses grâce à vous aujourd'hui. Alors, c'est quels examens qu'il faut pratiquer pour savoir si on a ce problème-là ?
Deux examens très simples, une prise de sang pour voir s'il y a une élévation des enzymes hépatiques et une échographie qui, dans 90% des cas, retrouve ce calcul. Et ensuite, si on a un calcul qui a été infecté, il faut prendre des antibiotiques en cas de cholécystite. Et puis, on intervient par une opération chirurgicale. On enlève la vésicule biliaire. On appelle ça la cholécystectomie.
Et une fois c'est le festival des mots compliqués aujourd'hui.
Exactement.
Hein.
Mais c'est une opération qui se fait quasiment en ambulatoire. par voie céleoscopique, on fait quelques petits trous au niveau du ventre et on passe avec des caméras. On rentre le lendemain matin et attention, aucun impact sur la digestion par la suite de l'absorption. L'organisme s'adapte et on n'a aucun problème par la suite lorsqu'on mange des aliments.
Et pour finir, si au décours d'une échographie, on tombe par hasard sur des calculs au niveau de la vésicule, il faut les faire retirer?
Surtout pas. Non, 80% des patients ayant un calcul vésiculaire n'auront jamais aucun symptôme.
Donc on n'y touche pas.
Au décours d'une échographie, on vous dit vous avez des calculs, mais est-ce que vous avez eu mal? Non. Donc on reste tranquille.
Gardez vos calculs. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour cet éclairage. Et donc tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le professeur Camille Taillé, pneumologue à l'hôpital Bichat à Paris.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Taillé.
Bonjour.
Alors avec vous aujourd'hui on va parler d'asthme, mais surtout de la pratique sportive qui est associée, quand on l'associe à cette maladie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne le sauraient pas exactement, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que signifie l'asthme quand même physiologiquement? Il se passe quoi dans les poumons d'un asthmatique?
Alors la maladie elle se passe dans les bronches en fait. C'est ce qu'on appelle une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes. Ça se caractérise par des cellules inflammatoires, c'est-à-dire des cellules du système immunitaire qui sont là en quantité anormale au niveau des bronches et qui vont sécréter des tas de molécules plus ou moins toxiques pour les bronches. Et la résultante de ces molécules, c'est qu'il va y avoir un rétrécissement des bronches progressif qui est lié d'une part au fait que les bronches sont ce qu'on appelle hyper réactives.
Elles sont toujours inflammées un peu,
c'est ça ? Elles sont toujours inflammées en permanence et elles ont une sensibilité anormale à tous les éléments extérieurs qui vont induire ce qu'on appelle un bronchospasme, c'est-à-dire un rétrécissement brutal du calibre des bronches lorsqu'elles sont exposées à des irritants, au froid, à la fumée de cigarettes.
Et la difficulté donc de respirer, évidemment, qui va avec les crises. Il y a combien d'asthmatiques en France? Beaucoup, hein, je crois. C'est
beaucoup
très
d'asthmatiques. On considère que c'est 5 à 7% de la population adulte et 10% des enfants.
Jimmy?
Et c'est une maladie qu'on dépiste seulement, qu'on découvre dans l'enfance, ou on peut se découvrir asthmatique sur le tard?
On peut être asthmatique à n'importe quel âge. Ça peut commencer entre 3 ans et 90 ans.
Et du coup, le sport dans cette histoire avec l'asthme, quand on y pense comme ça, on se dit bon, sport, asthme, le sport, ça sollicite les bronches, les poumons, on respire plus rapidement quand on fait du sport. Au départ, on se dit c'est incompatible quand même, enfin, quand on y pense comme ça rapidement.
Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas faire du sport au moment d'une exacerbation, c'est-à-dire au moment d'une poussée de la maladie, ce n'est pas raisonnable. Les bronches sont serrées, on est inconfortable et en plus, on risque d'aggraver les choses. En revanche, quand il n'y a pas de symptômes, que la maladie est contrôlée, il faut faire du sport ou il faut avoir en tout cas une activité physique régulière, c'est important.
Et on a des chiffres là-dessus parce que je crois qu'il y a beaucoup d'asthmatiques ou de parents d'enfants asthmatiques qui contraignent finalement leurs enfants. Ils ont peur tout simplement, donc ils ne font pas beaucoup de sport les asthmatiques en général. Hein.
Alors maintenant, les médecins scolaires et les profs de sport savent qu'en général, il faut autoriser les enfants à faire du sport à l'école et il faut
au contraire
qu'ils en fassent. Et c'est surtout important chez les adultes où la pratique sportive a tendance un petit peu à se réduire avec l'âge. C'est important de maintenir une activité physique chez les asthmatiques adultes. Et même chez les sévères, c'est important parce que les asthmatiques sévères sont des gens qui sont handicapés dans leur vie quotidienne. Et même quand il y a une situation de handicap, on conseille l'activité physique.
Professeur Taillé, on ne fait que commencer cet entretien. Bien sûr, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on vous précise un peu tout ça. Nous verrons que quasiment aucun sport n'est contre-indiqué avec l'asthme. À part un ou deux, on vous dira lesquels. Et puis, vous verrez qu'on peut même envisager de devenir sportif de haut niveau. Oui, même quand on souffre d'asthme, on vous dira tout. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Camille Taillé, pneumologue à l'hôpital Bichat à Paris. Alors, professeur, d'abord, on va tordre le cou à une idée reçue une bonne fois pour toutes, qui est d'ailleurs le thème central de notre émission. Quasi tous les patients asthmatiques peuvent faire du sport.
Exactement.
Je dis quasi, mais tous en fait. Hein.
Tous. Oui, même les sévères et même les enfants.
Et ce qu'on appelle l'asthme à l'effort, parce que ça existe, c'est un type d'asthme qui s'appelle donc l'asthme à l'effort, même chez ces patients-là, le sport reste recommandé?
Oui, parce que l'asthme à l'effort, c'est une forme d'asthme qui se manifeste qu'à l'effort, c'est-à-dire qu'en général, il n'y a pas de manifestation en dehors de l'exercice physique. Et celui-là se traite très bien et se prévient très bien grâce à des mesures qui sont assez simples, en fait.
Jimmy?
Et qu'est-ce qui se passe quand on fait du sport, quand on est asthmatique? On fait moins de crises, moins d'exacerbations, on est moins hospitalisé. Que montrent les études?
Les études alors, sont faites chez les adultes, essentiellement, montrent que, d'une part, la maladie est mieux contrôlée, c'est-à-dire qu'il y a moins de symptômes au quotidien, de réveil la nuit, d'utilisation des traitements de secours, montrent qu'il y a moins de poussées de la maladie, moins de crises d'asthme. Et que globalement la maladie est plus stable chez les patients qui font une activité physique régulière.
Ça veut dire ça, une maladie bien contrôlée, c'est une maladie dont on entend peu parler finalement, c'est ça?
C'est ça, c'est-à-dire qu'on s'attendrait à ce que tous les patients asthmatiques soient contrôlés, c'est-à-dire pas de réveil la nuit, pas gêné dans la journée, pas de limitation de l'activité quotidienne et une utilisation de leur traitement de secours, c'est-à-dire la ventoline, le plus minimal possible.
Vous dites que les études dont vous venez de parler, elles ont été réalisées essentiellement chez les adultes, mais chez les enfants, vous les voyez, enfin on les voit, peut-être les médecins les voient, ces bénéfices aussi.
Oui, tout à fait. Le bénéfice attendu, il est le même. Et chez l'enfant, il ne faut pas oublier en plus que lorsqu'on laisse l'enfant en cours de sport avec ses copains, il y a un rôle social qui est important, il y a une image de soi et il y a aussi... pour la croissance, pour l'image de l'enfant, un élément très important de continuer à faire du sport.
Comment on explique, par quel mécanisme finalement, parce que bon, on a dit le sport, ça fait une hyperventilation, ça sollicite très fortement le système respiratoire, mais comment on explique ce bénéfice sur le long terme quand on pratique un sport régulier chez les asthmatiques? Il y a une explication physiologique?
Une explication, elle n'est pas très très claire. On sait que chez les asthmatiques qui font du sport régulièrement, il y a moins d'inflammation au niveau des bronches lorsqu'on la mesure au niveau du poumon, et on ne sait pas exactement comment ça vient. On pense qu'il y a une interaction avec les cellules graisseuses, le tissu adipeux, qui sont des cellules très actives. Et lorsqu'on fait du sport, il y a une sécrétion de certaines molécules de par le tissu adipeux qui pourrait avoir un effet de contrôle sur l'inflammation.
Ça calme
tout
un peu les bronches,
voilà,
peut-être.
Mais tout ça reste un petit peu théorique.
C'est un peu mystérieux encore,
oui,
en fait.
Oui, on ne sait pas. Et on sait en revanche que si chez les asthmatiques qui se remettent à faire du sport, lorsqu'ils perdent du poids, l'effet de la perte de poids est aussi important sur le contrôle de la maladie.
Donc graisse et asthme, finalement, il y a un lien entre les cellules adipeuses et le système respiratoire, quand même.
Oui, tout à fait.
Et du coup, on peut faire tous les sports qu'on veut ou certains sont quand même déconseillés quand on est asthmatique?
Alors, tous les sports sont autorisés, sauf un, qui est la plongée sous-marine avec des bouteilles, où on a encore besoin d'un certificat de médecin de plongée sous-marine pour pouvoir le faire.
Pourquoi? C'est vraiment contre-indiqué? C'est quoi le risque finalement de la plongée? Parce qu'on a quand même de l'oxygène dans les bouteilles, donc bon, on respire sous l'eau.
Enfin... Oui, mais l'oxygène est sec.
Et l'air comprimé dans les bouteilles,
l'air
est différent
est sec
de celui
et voilà. Et donc il est assez irritant et on considère que si la maladie n'est pas très bien contrôlée et qu'il y a une crise qui survient sous l'eau avec les bouteilles, il ne peut pas remonter rapidement.
Ah oui,
et donc il y a un risque.
La ventoline sous l'eau, c'est compliqué, effectivement.
Avec un risque de crise grave. Et donc pour l'instant, ça reste globalement contre-indiqué.
Pendant un temps, j'avais entendu parler, moi j'étais asthmatique enfant, donc je connais un peu l'asthme quand même, mais moi on m'avait déconseillé l'équitation quand j'étais enfant. Pourquoi?
Alors, l'équitation, c'est déconseillé chez les enfants qui sont allergiques, parce que quand on fait de l'équitation, on est exposé aux poils de cheval, mais aussi la poussière, les moisissures, etc. Donc, s'il n'y a pas d'allergie, en principe, ce n'est pas contre-indiqué. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas d'allergie, on est aussi à risque de développer des allergies. Et donc, ce serait dommage chez un enfant qui devient passionné de cheval de devoir le faire arrêter après s'il s'est sensibilisé.
Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des sports que vous recommandez lorsqu'on est asthmatique?
Non, on ne recommande pas de sport particulièrement. On recommande
même pas de sports de fond qui font justement, qui sollicitent beaucoup le système respiratoire. C'est pas
enfin,
bon,
en tout cas, ce n'est pas étudié. Il n'y a pas démontré qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Nous, ce qu'on dit, c'est le bon sport, c'est celui que vous faites avec plaisir et que vous faites régulièrement. Parce que c'est là où ce sera efficace si vous le faites avec régularité.
Et est-ce qu'un enfant diagnostiqué asthmatique, là, ces derniers temps, ses parents, alors qu'il aime le sport, peuvent envisager le laisser rêver à devenir un jour grand athlète de haut niveau, faire les Jeux Olympiques? C'est possible pour un asthmatique?
Oui, tout à fait, bien sûr. Il y a beaucoup de champions olympiques et de sportifs de haut niveau dans toutes les disciplines qui sont des vrais asthmatiques. On a le droit d'y rêver, mais le corollaire, c'est qu'il faut avoir une maladie qui est traitée avec un traitement par corticoïde inhalé qui est pris régulièrement, une maladie qui est bien suivie. Mais si on est bien suivi, oui, on peut faire du sport à haut niveau.
Bon, c'est une super nouvelle, ça, professeur Taillé. Nous allons poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on enfile les baskets, enfin pas Jimmy et moi, mais vous, peut-être les patients asthmatiques, parce que faire du sport, c'est excellent pour eux, pour les patients asthmatiques, on vient d'en parler, mais ça demande quand même quelques précautions sur le terrain, un traitement à prendre juste avant le sport pour certains, et attention aussi à la météo, on va vous détailler tout ça juste après, restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit, sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Camille Taillé, pneumologue à l'hôpital Bichat à Paris. Alors professeur, il y a quelques minutes, vous nous avez expliqué tous les bénéfices pour les personnes asthmatiques de se remettre au sport finalement ou de continuer à faire du sport. Mais on est d'accord quand même, c'est bien fait pour en bénéficier. Il faut quand même que ce soit régulier dans les études. On ne montre pas que juste être sportif le dimanche, ça fait du bien à son asthme, hein, c'est ça?
Non, clairement, c'est des activités physiques qui sont... faites régulièrement, une fois par semaine. Après, ce n'est pas forcément des choses très intenses. Quand on dit faire du sport, il ne faut pas non plus que ça dégoûte tout le monde. C'est avoir une activité physique régulière qui peut être de faire de la marche ou faire du tapis. Ce n'est pas forcément battre des records olympiques.
Très bien, Jimmy.
Et certains parents sont parfois inquiets quand leur enfant asthmatique doit faire du sport. Il faudrait leur dire qu'il faut les considérer comme les autres enfants, des enfants normaux, en bonne santé?
Oui, tout à fait. On peut faire du sport de façon tout à fait normale, avec certaines précautions. notamment d'avoir toujours son traitement de secours, donc c'est-à-dire le traitement bleu, qui est ce qu'on appelle le bronchodilatateur de courte durée d'action, celui qui agit très vite, la Ventoline classiquement. Donc l'avoir toujours sur le terrain de sport avec soi, la prendre 10 minutes avant de faire l'exercice. Et puis l'idéal, je pense que c'est aussi quand même d'informer le prof de sport.
Vaut mieux toujours prévenir
ça semble plus raisonnable, surtout si la maladie est un petit peu difficile à traiter. Je pense que c'est plus confortable pour le prof de savoir ce qui se passe si un jour il y a une crise sur le terrain ou dans la salle de sport.
Oui, c'est évident. On va passer quand même à la pratique. Un asthmatique qui fait du sport, que ce soit un enfant ou un adulte, il faut quand même que ce soit préparé. C'est-à-dire que je crois notamment que l'échauffement chez un asthmatique, c'est vraiment fondamental.
C'est tout à fait fondamental, vous avez raison, parce que la meilleure façon de déclencher ce qu'on appelle l'asthme à l'effort, c'est de faire un effort brutal, rapide. Typiquement, ce qu'expérimentent les asthmatiques, c'est de partir en courant pour rattraper le bus ou rattraper le train, où là, généralement, ça déclenche des crises qui peuvent être assez sévères. Donc, il ne faut pas faire ça, il faut s'entraîner, il faut s'échauffer.
Et plus que les autres, s'il le faut.
Plus que les autres, voilà. Et il faut prendre le traitement 10 minutes avant pour prévenir ce spasme à l'effort.
Et justement, ce bronchodilatateur, la Ventoline qu'on prend avant l'effort, ça concerne tous les asthmatiques ou simplement ceux qui font un asthme à l'effort?
C'est surtout ceux qui ont de l'asthme à l'effort, mais nous, on a l'habitude de le recommander à tout le monde. C'est plutôt une pratique d'une bonne pratique, on va dire.
Bon, si on fait du yoga, peut-être pas, parce que c'est pas forcément très intense. A priori,
voilà. Et puis après, pas hésiter, si c'est des efforts un peu brutaux, d'en reprendre sur le terrain ou dans la salle, si on siffle, si on se met à tousser. Si on est essoufflé, de la prendre quand il y a besoin.
Mais c'est quoi l'intérêt finalement de ce bronchodilatateur juste avant l'effort? Il va faire quoi dans les poumons? C'est comme un échauffement aussi? Enfin, il sert à quoi?
En fait, il va prévenir le bronchospasme, c'est-à-dire qu'il va empêcher la bronche de se contracter brutalement, ce qui va déclencher les symptômes de sifflement et de toux.
Pardon, parce que justement, ce symptôme de sifflement, les parents souvent le connaissent bien, mais la toux, souvent, on ne sait pas que ça peut être un équivalent d'asthme et un signe précurseur de la crise d'asthme.
Oui, tout à fait. Après, en plus, ça dépend des enfants et des asthmatiques, les symptômes ne sont pas toujours les mêmes et donc c'est important que les enfants apprennent à reconnaître les symptômes qui annoncent la crise. Chez certains, c'est une petite toux sèche qui annonce les choses, chez d'autres, c'est des sifflements et d'autres, c'est uniquement les sifflements.
La petite toux sèche, ça peut être aussi un signe.
La petite toux sèche et tousser à l'effort, c'est un élément très important pour le diagnostic d'asthme d'effort.
Le bronchodilatateur, il sert aussi à contrer un peu l'hyperactivité des bronches, c'est ça? Parce qu'elles sont hyperactives, ces bronches d'asthmatiques.
Oui, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'à l'effort, lorsqu'on va respirer de l'air froid, de l'air sec ou de l'air humide ou des irritants qu'il peut y avoir dans un gymnase, effectivement, on peut déclencher des crises.
Justement, je reviens sur ce que vous venez de dire. L'air froid, vous avez dit en ce moment, c'est l'hiver, la météo n'est pas toujours clémente, il peut faire très froid dehors. Bon, c'est pas parce qu'il fait froid qu'on va arrêter complètement de faire du sport, il faut rester actif, même en hiver. Mais le froid sec, c'est l'ennemi de l'asthmatique, quand même.
Tout à fait.
Pourquoi ?
Parce que c'est quelque chose qui va irriter la bronche. Il y a des capteurs de température, des capteurs d'humidité dans la bronche.
On a un hygromètre, un thermomètre
Les bronches sont des organes très intelligents. Et lorsqu'elles sont irritées parce qu'elles sont malades, en fait, elles vont réagir en donnant ce bronchospasme et cette contraction du muscle bronchique.
C'est que le froid sec ou s'il fait froid et humide, il fait froid et il pleut, c'est mieux, non ?
Alors ça, je pense qu'en fonction des patients, c'est différent. Mais les malades vous racontent très bien qu'en général, l'humidité, ils n'aiment pas trop. Les changements de température, ils n'aiment pas trop. Les temps orageux, ils n'aiment pas.
Bon, en gros, quand il fait froid humide ou froid sec, c'est pas bon. Dans tous les cas, il faut être vigilant en hiver.
C'est désagréable. En tout cas, il faut se connaître et il faut connaître les températures qui sont désagréables.
Jimmy ?
Et à l'inverse, lorsqu'il fait très chaud, voire lorsqu'on a des températures caniculaires, il faut aussi faire attention.
Alors ça, c'est moins bien documenté, parce que les canicules, on les expérimente que depuis quelques années. Mais cet été, par exemple, beaucoup de nos patients nous ont raconté qu'ils étaient très inconfortables.
Ils sont gênés par ces températures.
Ils étaient très gênés par la chaleur et par l'humidité. Après, c'est vrai qu'au moment des pics de canicule, il y a de la pollution. C'est la saison pollinique, donc il y a un certain nombre de choses qui vont se mélanger.
Tous les facteurs en même temps.
Mais globalement, il faut s'écouter. Et quand on sait que c'est un jour où on n'est pas confortable, où on siffle, où on n'est pas bien, il faut éviter pour le coup de faire des efforts ces jours-là.
Les pics de pollution, là, on est d'accord, on ne va pas faire un jogging. Bon, déjà, personne. Et puis, des asthmatiques, encore moins, on est d'accord. Hein. La pollution, c'est vraiment l'ennemi suprême des bronches.
Alors, les pics de pollution, il y en a un petit peu plus. Donc, effectivement, il faut éviter d'aller respirer des grosses quantités de polluants ces jours-là.
Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est asthmatique sévère? Vous avez dit, même ceux-là, ils peuvent faire du sport, c'est même recommandé. Je crois qu'il y a de la réhabilitation respiratoire qui existe dans des centres, avec des kinés, des médecins, pour apprendre à se remettre en mouvement quand on s'est un peu contraint pendant des années. Ça existe. On y fait quoi concrètement dans ces centres?
Alors, ça, c'est surtout pour les asthmatiques les plus sévères, on va dire, les plus handicapés, ceux qui, en fait, ont arrêté de bouger parce que l'asthme les limite et qui se sentent essoufflés pour des petits efforts. Donc, c'est pas uniquement pour les asthmatiques, c'est pour tout toutes les maladies respiratoires. Et donc l'intérêt de ces centres, c'est de reprendre une activité physique en confiance, en n'ayant pas peur, accompagné avec des kinés, avec des profs de sport. On contrôle la saturation, on contrôle la fréquence cardiaque et de progressivement en fait se réentraîner comme un sportif qui aurait arrêté de faire du sport, mais de reprendre une activité physique.
Il y a des études qui ont été faites dans ces centres de réhabilitation pour les asthmatiques en particulier, c'est pas que pour eux, ça on l'a compris. Ça marche bien de faire ce type d'entraînement dans des centres de réhabilitation ?
Ça marche de façon extraordinaire.
Ah oui.
Les résultats sont très spectaculaires. Les patients augmentent leur capacité d'effort, deviennent plus autonomes et puis aussi se sentent mieux sur le plan de la qualité de vie, sur le plan du moral.
Et ils continuent après au moins ou pas ?
Alors ça, c'est plus compliqué, mais on les encourage avant qu'ils quittent le centre justement à trouver des activités pour continuer après par eux-mêmes.
C'est pour les enfants ou les adultes ces centres de réhabilitation ?
Il y a les deux, les enfants et les adultes. Et puis, il ne faut pas que les maladies... pas que l'asthme, toutes les maladies respiratoires, la BPCO, la fibrose pulmonaire, toutes ces maladies-là peuvent en bénéficier.
Et si vraiment on n'aime pas du tout le sport, même si on est asthmatique, on a le droit de ne pas aimer ça. Je crois que vous dites que ce n'est pas forcément le sport, juste bouger, déjà, ça améliorera l'asthme, hein, c'est ça ?
Voilà, déjà marcher 30 minutes par jour, c'est déjà une activité physique et c'est déjà bien.
Merci beaucoup, professeur Taillé, d'être venu sur notre plateau nous expliquer tous les bénéfices du sport, de l'activité physique pour les patients asthmatiques et bien sûr, les précautions à prendre. En tout cas, on l'a compris, avoir de l'asthme, ça n'empêche pas de devenir, si on en a envie, sportif de haut niveau. Merci encore.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à une chose qu'on déteste. Enfin, moi, j'aime pas trop, en tout cas, la cellulite. De quoi s'agit-il précisément ? Pourquoi certains, enfin plutôt certaines, parce que c'est quand même un problème plus féminin, en ont plus que d'autres. On va essayer de vous expliquer tout ça. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle de la cellulite, l'ennemi du maillot de bain. Quoique, on peut s'en ficher aussi d'ailleurs d'avoir de la cellulite, hein, Jimmy. Non, on n'est pas obligé de trouver ça affreux. Des gens qui aiment bien, je ne sais pas. Alors, en tout cas, savez-vous, vous, pourquoi elle se forme, cette cellulite ? Pourquoi certains, ou certaines plutôt, en ont plus que d'autres ? Benjamin Lévesque, notre reporter, a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
Ah, la cellulite, c'est la peau d'orange. C'est tous ces petits capitons, là, sous la peau.
Ça se passe au niveau du bas du corps.
C'est, du coup, la graisse présente, en fait, chez les femmes, qui, en fait, se concentre, une espèce, en fait, qui fait, en fait, comme des grumeaux, comme quand on mélange mal la pâte à crêpes.
C'est un amont de gras sur les parties du corps.
La cellulite, j'imagine ça comme une... Pour donner une image, c'est pas comme une peau qui serait droite, mais une peau avec des différences de niveau.
Sur les cuisses, sur les fesses, des hommes, des femmes. C'est pas du gras comme on peut croire, parce que tout le monde a de la cellulite, même les gens qui sont pas très gros.
C'est une graisse qui n'est pas consommable par le corps quand il fait du sport, si je me souviens bien. Et du coup, si on fait du sport et qu'on veut maigrir, il faut qu'on détruise la cellulite à travers différents moyens pour après pouvoir l'évacuer.
J'en ai, mais je mets rien dessus. Avant, je mettais des crèmes pour enlever la cellulite, mais ça ne marche pas.
Trop de gras, j'imagine, dans les aliments.
Je pense que l'activité physique est importante pour la cellulite.
J'ai vu beaucoup de ma poêle et j'en ai jamais vu avec cellulite. Du coup, je suppose que c'est que les femmes, parce qu'en plus, c'est que les femmes qui en parlent.
Bon, allez, Jimmy, vous êtes un pro du sujet, la cellulite. Je suis sûre que ça va vous passionner, même si vous, évidemment, vous n'en avez pas un poil de cellulite. Il n'y en a pas, hein, j'en ai pas vu. Enfin, j'ai jamais regardé, j'avoue, j'ai n'importe quoi.
Voilà,
néanmoins, expliquez-nous de quoi elle est formée précisément, cette cellulite.
Alors, le corps humain est composé de cellules dites adipeuses ou graisseuses. Au sein de l'hypoderme, ces cellules stockent de l'eau et de la graisse. Et quand elles arrivent à leur maximum de capacité de stockage, la cellulite apparaît et donne cet aspect de peau d'orange à la peau. Il s'agit d'une inflammation locale qui se caractérise par des gonflements.
Oui, c'est un peu gonflé avec des petits trous comme
ça. Exactement. Sur le plan médical, ça n'impose strictement aucun problème. Ça peut être parfois douloureux. Le seul préjudice éventuel en fonction des personnes, ça peut être un préjudice d'origine esthétique.
Oui, donc psychologique, ça peut créer de forts complexes parfois quand même. Donc à ne pas négliger quand même. Un point important, Jimmy, encore une fois, c'est un problème qui est quand même plus féminin. On n'a pas de bol, quoi.
Oui, pas de chance. C'est clairement quelque chose qui touche un peu plus les hommes que les femmes. Alors pourquoi les femmes ? Car dans la cellulite, on a plusieurs phénomènes qui sont plutôt complexes, avec au premier rang celui de la variation des hormones féminines.
Et, oui,
et en plus de ça, on sait qu'on n'a pas forcément de lien entre corpulence et cellulite. On peut ne pas avoir de surcharge pondérale et de la cellulite, et au contraire, être en surpoids et ne pas avoir de cellulite. Donc il n'y a pas forcément de lien entre les deux. On sait que plusieurs zones du corps sont touchées. En général, c'est à l'arrière des cuisses,
ouais,
au niveau
fréquent,
des fesses.
Je crois, on voit ça sur la plage.
Exactement, du ventre et le haut des bras.
Alors, Jimmy, je vais faire un petit ajout quand même. Si les femmes, elles sont particulièrement concernées par la cellulite, c'est aussi parce que nous, les femmes, on a des cellules graisseuses qui sont différentes des vôtres, hein, les hommes, c'est ça ?
Exactement, le corps de la femme contient environ deux fois plus de cellules adipeuses que celui de l'homme. C'est lié au fait qu'elle est génétiquement conçue pour stocker des graisses et subvenir aux besoins accrus de l'organisme, notamment en période de grossesse.
Mais oui, la nature est bien faite. On a plus de graisse pour pouvoir pallier à ces périodes-là. Hein, c'est
et
ça.
En plus de la quantité, on a une qualité différente. Les cellules graisseuses des hommes et des femmes ne sont pas du tout les mêmes au niveau de la structure. Celles de l'homme, elles sont plus petites et plus serrées, alors que celles des femmes se dilatent un peu plus facilement.
Et donc elles se remplissent plus facilement. Merci Timmy. En dehors du sexe, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui favorisent l'apparition de la cellulite ? Toutes les femmes d'ailleurs n'en ont pas. Hein. On dit c'est féminin, mais il y a des femmes qui ont la chance de ne pas en avoir.
Exactement, Mélanie, vous avez encore une fois raison. C'est une variable...
extraordinaire, hein, n'est-ce pas ?
Alors, on sait qu'une alimentation pas très équilibrée pourrait être impliquée dans l'apparition de cellulite, mais ce n'est pas tout. On sait qu'il y a un fort caractère héréditaire. Si votre mère avait de la cellulite,
et
vous avez...
J'ai de la chance, elle n'en avait pas du
exactement.
Tout. Elle est parfaite, ma maman.
Vous pouvez te protéger, exactement. Et une trop grande consommation de sucre et de graisse qui serait difficile à éliminer et qui vont saturer un peu plus les cellules adipeuses. On sait que la rétention d'eau est importante dans le mécanisme. Et donc, si vous avez une consommation en sel un peu excessive, vous allez stocker plus d'eau dans les cellules et donc plus de cellulite. Et encore une fois, l'inactivité, c'est un facteur de risque. Donc, bouger pourrait permettre de limiter cette apparition.
Jimmy, très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent ? Tous les gels, là, les crèmes qu'on voit anti-cellulite dans les supermarchés
Très rapidement, non, ouais, ça marche pas. En revanche, activité physique est importante, la marche, l'aquagym, ou l'aquabiking. Et puis, si vraiment vous êtes très invalidé, vous pouvez faire ce qu'on appelle la médecine esthétique et la chirurgie avec de la mésothérapie ou parfois la liposuccion. Mais bon, acceptez comme vous êtes.
La cellulite, ça ne vous dérange pas.
Ça ne pose aucun problème.
Allez, et bon conseil de toute façon, c'est quand même, vous l'avez dit, de bouger, d'avoir une activité physique régulière. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez, car après, c'est la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question de ses pensées, de ses fantasmes, un peu bizarres parfois pendant les rapports. Pourquoi on pourrait penser à d'autres personnes que celle qui est dans notre lit. Vous allez voir, apparemment, c'est assez classique. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, la dernière chronique sexo de la semaine, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint à l'instant. Catherine Blanc qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question d'Inès. Je vous la lis. Depuis quelques temps, j'imagine mon compagnon faire l'amour avec une autre. À ma grande surprise, cela m'excite encore plus et ça me fait jouir rapidement. Comment l'expliquez-vous ? Alors Catherine, d'abord, est-ce que on explique le fait de penser à quelqu'un d'autre pendant l'acte finalement avec une autre personne du coup ?
Eh bien parce que comme la sexualité est animée de fantasmes, tout vient nous bousculer plus ou moins consciemment. Parfois c'est purement inconscient et du coup on est dans la relation et se joue devant notre inconscient des tas d'enjeux qui nous échappent. Mais parfois effectivement c'est notre conscient qui non seulement accueille mais en plus alimente le scénario. Et du coup, évidemment, alimente ce qui va être source d'excitation pour l'individu.
Et c'est très fréquent comme ça, des gens, je sais pas, qui vous racontent en consultation que bah, ils pensent toujours à quelqu'un d'autre, en fait, finalement, ou ça les excite plus de penser à quelqu'un d'autre.
Alors, c'est pas toujours, mais oui, il y a effectivement beaucoup de gens qui vont penser ou à quelqu'un d'autre, ou à une situation douloureuse, ou à une situation rocambolesque, qui les mettent en scène ou qui mettent en scène l'autre. Et assez curieusement, ce qui est source de jouissance n'est pas toujours des choses que l'on pourrait imaginer positives.
Et c'est pas quelque chose qui est plutôt masculin quand même, parce que là, c'est Inès, c'est donc une jeune femme qui nous dit ça, mais c'est pas plutôt les hommes qui ont tendance à imaginer d'autres femmes pour s'exciter plus, je sais pas.
Non, c'est les hommes et les femmes. Simplement, encore une fois, il y a ce qui remonte au niveau du conscient et ce qui reste au niveau de l'inconscient, mais en tout cas, dans l'élan initial, pour l'un comme pour l'autre, c'est une profusion importante de fabrication fantasmatique.
Jimmy ?
Alors là, c'est peut-être un acte manqué de Mélanie, mais là, elle imagine son compagnon faire l'amour avec une autre. C'est pas elle qui s'imagine faire l'amour avec un autre, donc c'est encore plus rare,
ah
non,
oui,
d'habitude.
Je n'avais même pas réalisé, moi, j'étais pas partie sur ça dans ma tête, effectivement.
Oui. Donc c'est bien, on a répondu à cette première question, mais du coup, imaginer son partenaire avec une autre et que ça procure du plaisir, c'est un cheminement qui peut être dur à comprendre, non pour...
Ah oui, c'est clair.
Oui, ben parce que en fait, ça raconte évidemment des choses qui
Merci
sont.
Merci Jimmy pour cette remise dans l'ordre. J'avais pas du tout compris la question.
On appelle ça un acte manqué ou voilà, c'est pas grave.
C'est ça.
Ah, voilà, ça... Mélanie s'intéressait à un autre aspect. Donc en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en fait, ce qui est excitant, c'est de voir, c'est d'une part de le voir avec quelqu'un d'autre, de l'imaginer avec quelqu'un d'autre, ou avec quelqu'un d'autre, mais malgré tout, elle y participe puisqu'elle
mais
est en train
de
faire l'amour.
C'est pas du tout excitant,
l'amour.
Ça, quand même, de penser à son mari. Non, mais maintenant, du coup, je réalise et je me lâche. C'est pas d'imaginer son homme avec une autre femme.
En tout cas, pas pour vous. Mais vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre du voyeurisme ou, au contraire, de la douleur. C'est parce qu'il est coupable de faire l'amour avec une autre ou parce qu'elle fait l'amour avec cet homme qui fait l'amour avec une autre et donc elle participe de cela ou elle est celle qui fait l'amour après.
Parce qu'elle n'a plus envie de lui, peut-être, tout simplement, non ? Peut-être qu'elle n'a plus envie de son conjoint, en fait, elle ne l'aime plus.
Non, vous savez, on peut avoir, je pense, un patient qui avait besoin d'imaginer que la femme avec qui il faisait l'amour le trahissait, le trompait, etc., pour qu'il puisse jouir, sinon il n'y arrivait pas. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment parce que ça raconte nos constructions relationnelles, encore une fois, hors du champ de la sexualité, dans notre histoire d'enfant. Et que du coup, par exemple, si j'ai assisté à une scène dans mon histoire d'enfant, notamment sexuelle, par exemple, ou symboliquement sexuelle, eh bien, je peux ramener ce souvenir qui m'a excité petit enfant pour alimenter ma sexualité future d'adulte.
Mmh. Jimmy ?
Je dois vous avouer que ça m'échappe un petit peu malgré tout, mais est-ce que l'étape d'après, ce serait finalement de faire un plan à trois? Est-ce que dans sa tête elle est prête à ça ou est-ce qu'elle voudrait peut-être
ça? Vous échappe, mais vous avez de l'imagination quand même.
Oui, non, mais allons au bout du raisonnement. Voilà, c'est
parce que oui, elle pourrait effectivement demander la mise en scène réelle de cela, mais ce qui lui plaît c'est de l'imaginer sans que lui ne le sache, c'est-à-dire qu'elle ne se met pas en danger tout en mettant en scène la scène dangereuse, source d'excitation dont elle est où actrice en tant que voyeuriste ou dont elle est actrice en tant que maintenant c'est à moi, maintenant c'est ma place, puisqu'il faisait l'amour avec une autre et je lui pique. Alors où c'est le fantasme de piquer à l'autre femme cet homme, où c'est le fantasme de punir l'autre femme en l'évinçant et en prenant sa place, où c'est le fantasme d'être éliminé et d'être dans un rapport ou d'abandon ou de voyeurisme. Enfin, en tout cas, ce sont autour de ces histoires-là que se fait son excitation.
Mais elle doit en parler à son copain quand même de cette histoire, parce que c'est quand même... Bon, je reste... j'ai du mal à comprendre,
En parler, c'est quand même s'exposer à la possibilité qu'il lui dise « t'es quand même curieuse, mais si ça te plaît tant que ça, faisons-le avec une autre », ce qui n'est pas nécessairement ce à quoi elle est prête, justement.
Oui, donc peut-être que ce n'est pas la peine d'en parler, en fait.
Non, par contre, elle peut, elle, s'interroger sur la récurrence, parce que dans la mesure où une sexualité a besoin toujours du même leitmotiv, elle manque de créativité et tôt ou tard, elle s'éteint.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux comme toujours. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h.